Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Bonjour à tous, vous êtes bien sur France Inter et c'est le début de l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
L'Instant M est une émission média qui ne s'intéresse pas beaucoup au petit monde des médias, avec l'idée que vous non plus, ça ne vous passionne pas. En revanche, que les médias soient une rampe passionnante pour raconter notre époque, nous en sommes pleinement convaincus. Autant de sujets à partager ensemble, même si ça fait un bail que vous ne regardez plus la télé, même si la presse vous ennuie, même si Twitter vous indiffère. Alors peut-être que l'Instant M regarde ses politiques sur France 5 avec un œil tout à fait déformé. Mais quand même, on s'est interrogé. Et si cette émission politique avait abandonné l'actualité politicienne pour faire de la politique une porte d'entrée ouvrant toutes les portes de notre société.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Karim Rissouli.
Bonjour Sonia.
C'est politique, c'est vous, ça commence à 18h35 le dimanche sur France 5 et ça occupe les deux créneaux de l'année dernière, c'est politique et c'est polémique réunis en un, Bruce Toussaint est parti sur France Info et vous avez avalé sa case et son débat. On va en parler bien sûr, juste un détour, d'abord par la Madeleine du vendredi car vous y êtes tous très 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 attachés. Ce matin, le premier qui a tout bon et qui répond à cette adresse, l'Instant M tout attaché à radiofrance.com, gagne un très bel enregistrement sur CD d'un récital à Radio France, du Schumann, du Chopin et du Bach. Voici ma question. Qui a été le pionnier des émissions médicales à la télévision? Une greffe de cœur en direct en 1969.
Voici donc le début. Le thorax est ouvert, n'est-ce pas?
Le sternum du malade a été ouvert, du receveur a été ouvert. Et vous voyez cet énorme cœur qui bat très lentement, très mal, alors que la circulation extracorporelle a été installée. Et que le sang de ce malade est en dérivation sur la machine.
50 ans avant Michel Simès, qui a été le pionnier de la médecine à la télévision française, Karim Rissouli sèche carrément, pas vous, l'Instant M à radiofrance.com. Mes voeux vous accompagnent et particulièrement Sam à Saint-Félix de l'Odèze, EZ, je ne sais pas comment ça se prononce, qui m'envoie ce mail. Sonia De Villers, toutes les semaines, j'ai la bonne réponse et je l'envoie et je ne gagne jamais. Est-ce dû à ma situation géographique rurale? Les mails ne montent pas assez vite à la capitale, point d'interrogation. Il faudrait peut-être une enquête sérieuse sur ce sujet. Nous sommes égaux devant la rapidité des mails, oui ou non. Un téléphone sonne peut-être, me demande Sam. Eh bien, je lui réponds non, ça ne suffit pas. Un cache-investigation, un pièce à conviction, nous ne lâcherons pas le dossier. Karim Rissouli, avant de parler de votre émission C'est Politique, je vous propose un petit tour d'actualité politico-médiatique. On veut votre science. Lundi, c'est lancé un nouveau média, dit
Le Média,
avec son contre-JT de 20h, dont Bruno Gassiot, qui est abonné et actionnaire, est invité.
Donner des infos comme ça, les unes derrière les autres, avec des explications et tout ça, ça me fait penser que c'est vous pourriez être le monde diplomatique par rapport à un gratuit. Gratuit, on l'ouvre, on regarde, on n'a pas d'infos, on jette. Alors que vous, il faut s'y intéresser.
Alors, il est bienveillant, Bruno Gassiot, parce que les débuts du média ont été quand même très balbutiants. Mais après, ce sont des débuts. Vous le voyez comment, ce média très politique?
On va, dans l'émission de dimanche, justement, essayer de comparer le premier JT du média avec les JT de TF1 et de France 2 de ce jour-là. Et on a commencé à en parler
en termes de menu, de ligne éditoriale, de menu,
puisque
de hiérarchie
le média nous promet des infos pas vues ailleurs ou pas, pas entendues ailleurs. Une hiérarchie de l'info différente. Donc, on va essayer de regarder si c'est le cas. Il se trouve que pour le premier JT du média, l'ouverture était sur les admissions post-bac, comme le JT de TF1. Donc voilà, on verra si le média les traite différemment. Je trouve ça toujours intéressant, moi, qu'il y ait un nouveau média qui se monte. Il est officiellement de gauche anti-Macron, et au moins c'est clair.
Avec cette question, du coup, journalistiquement, comment vont-ils couvrir la gauche?
Et comment vont-ils couvrir Jean-Luc Mélenchon?
C'est ça.
Alors dans le premier JT, il n'y avait pas un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Comme s'il fallait donner des gages d'indépendance vis-à-vis des insoumis.
Alors on continue. François Ruffin, justement député de la France Insoumise, en maillot de foot au perchoir de l'Assemblée nationale, buzz garanti.
Le maillot que je porte aujourd'hui, c'est celui de l'Olympique au Courtois. C'était le club de mon ami Antoine. Franck Hernin en était le président et je l'avais rencontré à un repas de fin d'année à la salle des fêtes de Cours-sur-Somme. Vous voyez l'ambiance, je pense. L'étape, elle était couverte de nappes fluo, la sono balançait de « Et tu chantes, 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 ce refrain qui te plaît ».
Il est fort, François Ruffin.
Il est très fort.
Il est fort, mais quand même, moi, je vous passe ce son, Karim Rissouli, parce que Mélenchon, qui sort son panier de courses pour illustrer tout ce qu'on peut acheter avec 5 euros d'APL en moins à l'Assemblée nationale, on a l'impression qu'il y a un théâtre médiatique qui s'est déplacé, que sous Hollande, ça se passait beaucoup sur les plateaux des chaînes d'infos. Hein. On imagine bien Mélenchon sortir son paquet de pâtes chez Bourdin, et là, ça se passe à l'Assemblée nationale. Le happening.
Le happening aussi parce qu'il y a des profils différents à l'Assemblée nationale. Mélenchon, il n'était pas à l'Assemblée avant. Il était député européen et il a été sénateur. Ruffin, il n'était pas député. Donc je pense que c'est l'une des bonnes choses de ce qui s'est passé en 2017. Il y a des profils différents et nouveaux qui sont entrés à l'Assemblée. Alors ça donne ça, ça donne des questions d'actu qui se trouvent peut-être un peu moins soporifiques. Moi, je trouve que le profil de François Ruffin, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son discours, qu'on soit de gauche ou de droite, il est intéressant, que ça fait du bien à la vie démocratique d'avoir ce genre de profil.
Alors il y a la vie démocratique et puis il y a la vie médiatique, parce que là, c'est un buzz et un happening totalement pensé pour faire le tour des réseaux sociaux et de toutes les télévisions.
Et totalement assumé, puisque ça marche. Oui. Nous, on l'a invité, François Ruffin, dans ses politiques, le débat. On a très peu d'invités politiques, lui, il est venu, parce que c'est un politique un peu différent. Alors effectivement, il y a un show, ils ont compris les codes des médias et ils savent s'en servir.
Sur France 2, 20h exceptionnel, Laurent Delahousse interview Emmanuel Macron en marche dans le palais de l'Élysée.
J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous y passez finalement beaucoup de temps dans ce ou ces bureaux ?
Oui. Oui, on passe beaucoup de temps à travailler les dossiers de fond, y compris d'ailleurs les week-ends. C'est les week-ends et le soir qu'on y passe le plus de temps.
La nuit, on dit.
Oui.
Aussi beaucoup.
Oui. Parce que c'est ma façon de m'organiser, que j'ai toujours fonctionné ainsi. Donc il y a des heures qui sont plus calmes. Quand nous allons nous séparer dans quelques instants, ce sera plus calme, donc je pourrai
travailler. C'est pas une légende, donc finalement vous dormez très peu.
Je dors peu.
Bronca des journalistes politiques, Karim Rissouli, au lendemain de la diffusion de cette émission.
J'ai pas vu, j'étais en direct sur France 5. Voilà, deuxième réponse. La bronca, honnêtement, je la comprends pas vraiment. Moi, je l'aurais pas interviewé de cette manière-là, Emmanuel Macron. Mais c'est Laurent Delahousse. Laurent Delahousse, il fait des émissions qui mêlent à la fois le romanesque, l'actualité, le politique. Et il s'est inscrit plus dans la ligne de Un jour un destin ce soir-là que du présentateur du JT de France 2.
Donc l'erreur, c'est de l'avoir calé dans le JT de 20h ?
Je pense que la bronca vient de là.
Parce que sous Obama aux États-Unis, on a bien vu que finalement, il y avait deux registres d'interviews qui s'articulaient bien, qui avaient été parfaitement imposés et maîtrisés par la Maison-Blanche. Des interviews de télé où Barack Obama parle de ses filles, où il parle de lui en tant que père, etc. Et puis, des interviews présidentielles. Là, manifestement, on n'était pas dans une interview présidentielle. Et en France, ça passe mal.
Ça passe mal parce que c'était dans le JT de 20h. Mais cette interview, elle était très intéressante. Elle va aussi chercher des choses différentes chez Emmanuel Macron. Voilà, il y a eu une incompréhension, je pense, entre ce qu'on voit d'habitude à 20h sur France 2 et ce qu'on a vu ce soir-là.
Et pourtant, le président de la République est le premier à approcher aux journalistes politiques leur propension à s'intéresser à des sujets qui n'intéressent pas les Français, Emmanuel Macron.
Savoir si je prépare mes vœux de jour, de nuit, s'ils seront debout, assis, couchés ou que... n'a aucun intérêt. Et je crois que ça n'est même pas les questions que se posent les Français. C'est donc une question à laquelle je ne réponds pas.
Là, vous voyez, Karim Rissouli, on va arriver très 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 vite au cœur de ces politiques. Première interview du président de la République sur TF1, vous vous souvenez, trois journalistes très capés, Boulot, Coudray, Pujadas, 25 minutes sur ses choix de communication ou de non-communication. Pas de questions sur le glyphosate, pas le temps.
Je pense pas qu'on puisse reprocher à Pujadas et Gilles Boulot de pas faire leur métier de journaliste, franchement. Après, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui met en scène sa présidence comme, j'allais dire, comme personne avant lui. Nicolas Sarkozy l'a fait, mais avec les moyens de communication de l'époque. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il était en Chine la semaine dernière, il va prononcer une phrase en chinois au début d'un discours, et ben, sur le Twitter de l'Élysée, on voit Emmanuel Macron dans sa loge en train de répéter sa phrase en chinois. Ça, c'est mis en avant par l'Élysée, donc je trouve ça normal qu'on l'interroge sur sa communication. 25 minutes, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais
Donc l'Élysée en fait fabrique une matière qui est la mise en scène de la politique et la mise en scène de la communication politique et ensuite tape sur les journalistes parce que les journalistes commandent cette matière.
Oui, c'est une très grande hypocrisie de la part de l'Élysée puisque vraiment Emmanuel Macron il prend le contre-pied de la présidence Hollande. Il a compris qu'il fallait imposer l'agenda médiatique, imposer le tempo et j'espère que ça lui reviendra pas en boomerang parce que on a vu dans l'histoire politique que c'est bien d'avoir des journalistes qui posent des vraies questions en face. C'est bien de se faire bousculer pour faire une bonne interview. Donc voilà, on verra ce qui sera le plus efficace.
C'est politique sur France 5 le dimanche. On a beaucoup commenté le fait que vous avez cessé de recevoir sur France 5 des hommes politiques le dimanche, qui est pourtant la journée dévolue en radio et en télé à la grande émission politique. On a moins commenté le fait en réalité, que exit aussi les éditorialistes, les patrons de journaux, les journalistes politiques. Vos chroniqueurs n'en sont pas et vous ne reformez pas finalement cette coterie qu'on voit à longueur de chaînes info, mais aussi de différents talk shows.
Tant mieux. On a une journaliste politique, oui. Camille Girard. Et on pense que ça suffit. Parce que nous-mêmes, on parle de stratégie politique, de conquête du pouvoir, de conservation du pouvoir. On le fait un peu. Mais sur 2h20 d'émission, je pense qu'il y a 10% de politique politicienne. Mmh. Pas plus. Donc, oui, exit les éditorialistes. On essaie d'avoir des gens qui racontent...
Exit les éditorialistes, pourquoi ? Parce que finalement, les deux mondes, les deux vieux mondes, comme on dit aujourd'hui, se regardent en miroir. C'est-à-dire, les éléments de langage des uns correspondent finalement aux questions, aux analyses types des autres.
C'est surtout que notre ambition, c'est d'essayer de produire de l'information, de créer de l'info, que ce soit par les reportages, par les chroniques, par le regard historique de Thomas Negaroff, par le bureau de Vérif de Maxime Darquet. Je pense que un éditorialiste
plutôt que
de la commenter, mais c'est très intéressant. Et le matin sur Inter, sur Europe, j'écoute les éditorialistes et j'apprends des choses. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire à la télévision.
Alors, est-ce que justement, en changeant de formule cette année, est-ce que C'est Politique n'est pas devenu une émission de société à part entière ? Et d'ailleurs, où est la ligne rouge ? Où est la différence éditoriale, s'il faut en établir une, entre une émission politique et une émission de société, Karim Rissouli ?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de ligne rouge à construire. La politique, c'est de la société.
Et le débat de société n'a jamais été aussi politique qu'en ce moment.
Oui, c'est vrai. Et ça rejoint la politique qu'on a sur nos invités. Je pense que tout le monde doit être capable de parler de politique. Et on ne doit pas réserver le discours politique aux hommes politiques.
Donc vous invitez Jean-Noël Jeannet, historien, Michael Fossel, philosophe, ouais. Raymond Depardon, photographe, Barbette Schroeder.
Leïla Slimani, romancière, ou Alice Zénitaire. Moi, c'est ça qui me passionne. C'est d'aller chercher le regard sur la société, sur la politique, de gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. Mmh. Et je pense que du coup, ça fait une émission un peu différente.
On écoute l'une de vos enquêtes, Michael Herminger, victime de harcèlement sexuel au Front National entre 2011 et 2016. Ça avait fait du bruit.
À chaque fois que je croisais son chemin, c'était il regardait mes fesses et avec beaucoup d'insistance en disant « ça te fait vraiment un beau cul ce jean, j'aimerais bien le prendre en main, j'aimerais bien que tu viennes chez moi ce soir ». C'est des remarques insistantes à caractère sexuel, des remarques salaces. Tout le monde est au courant de ces agissements au final, mais tout le monde se tait parce que c'est le proche incontournable de Marine Le Pen au final depuis des années et personne ne dit rien.
Extrait de C'est Politique sur France 5, harcèlement.
Vous voyez bien
politique.
Que la société et la politique se rejoignent, y compris sur ce
exactement
sujet-là.
Exactement la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire est-ce qu'en fait vous vous servez d'une enquête politique dans votre secteur, dans votre spécialité, pour ouvrir absolument à toute la société ?
On essaie à chaque fois qu'on prend un sujet politique de dépasser l'avis des partis, de dépasser l'avis des hommes politiques. Sur la chaîne, sur France 5, il y a une émission politique, c'est la nôtre. Mm-hmm. Et puis il y a des émissions où on parle de société dans C'est dans l'air, dans C'est à vous, dans C'est l'hebdo. On le fait différemment, on le fait avec du reportage, on le fait avec des regards d'historiens, de philosophes, etc. Moi, j'ai été journaliste politique pendant 10 ans, mm-hmm. à peu près. J'ai couvert 2 campagnes électorales. Mm-hmm. Et moi-même, j'en avais marre de ça. J'en avais marre du petit monde politicien, j'en avais marre d'aller faire des déjeuners politiques. Voilà, je ne critique pas tout ça. Mais nous pressentions avec les producteurs qu'une page était en train de se tourner.
Vous avez été un des rares à pouvoir faire s'affronter sur votre plateau en direct, Charlie Hebdo et Mediapart, qui n'est pas qu'une histoire de presse, qui est une histoire politique.
Éminemment politique.
Éminemment politique, avec des camps politiques qui règlent des comptes par papier et par diatribe.
Bah, de gauche incarnée par ces deux médias-là, qui s'affrontent sur la laïcité et sur l'islam. Mais voilà, moi, si je peux faire ça pendant 10 ans, je serais ravi.
La semaine dernière, vous avez reçu Rokhaya Diallo, militante antiraciste, exclue du Conseil national du numérique. Elle croise d'ailleurs Leïla Slimani, que vous veniez d'inviter en première partie. Ensuite, un débat avec Ariane Chemin et Raphaël Baquet sur leurs enquêtes, sur Trapp. À Rokhaya Diallo, vous demandez de préciser ses positions sur le voile.
Moi, ce que je défends, en fait, c'est pas le port du voile, c'est le fait d'avoir le choix. Moi, je suis pas. J'ai beaucoup lu de choses qui disaient que j'étais pro-voile. Je ne suis pas pro-voile, je suis pro-choix. Je pense que chaque femme doit librement disposer de son corps. Et je soutiens autant les femmes qui souhaitent se dévêtir que celles qui souhaitent se couvrir.
Je me suis arrêtée sur le tweet de Françoise Laborde. Vous l'avez lu, ce tweet?
Oui, je l'ai lu. Ouais.
En fait, je le cite là à l'antenne parce qu'il me paraît révélateur d'un dessous des cartes qui pèse en réalité sur tout le monde, sur le travail des journalistes, mais aussi sur la lecture que peuvent en avoir les téléspectateurs. Françoise Laborde, c'est pas n'importe qui, ex-journaliste à France Télévisions, ex-conseillère du CSA. Elle interpelle. Karim Rissouli mise systématiquement en avant le voile. C'est lui qui avait déjà promu l'association Lalab, n'est-ce pas Yannick Letranchant? Et en cela, elle se signale au patron de l'info de France Télévisions. On précise, Lalab, c'est une association qui prône en fait le choix, voile ou pas voile chez les femmes.
C'est une association qui se dit musulmane féministe.
Voilà, et que vous aviez fait venir sur le plateau de l'émission politique sur France 2, à l'époque où vous en étiez, face à Manuel Valls. Ça fait d'ailleurs donner un dialogue assez tendu et assez stérile. Enfin, il ne se comprenait pas du tout. Comment vous le voyez arriver, ce tweet, Karim Rissouli?
Bon, d'abord, il est un peu blessant, parce que... Dans ce tweet de Françoise Laborde, je connais pas cette femme, voilà, je l'ai vue à la télévision.
Elle tweet
comme tout
beaucoup.
Il y a un présupposé que moi j'estime raciste. C'est-à-dire, si je m'appelais Thierry ou Jérôme, je pense qu'elle ne se dirait pas, quand il prononce le mot voile, il défend le port du voile.
Le présupposé, c'est il y a un arabe qui s'appelle Karim,
il prononce le mot voile, il est pour le voile. Françoise Laborde, elle fait partie d'un collectif qui s'appelle le Printemps Républicain. Qui est très 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 actif sur les réseaux sociaux et qui, là, je l'ai découvert la semaine dernière et c'est un peu blessant parce que ça touche à ma personne et à ce que je suis intimement. Au-delà de ça, ce que je pourrais dire à Françoise Laborde, c'est qu'il va falloir qu'elle s'habitue. Sur les plateaux de télé, dans les radios françaises, il y aura de plus en plus d'animateurs qui s'appelleront Karim, Mohamed, Mamadou, Fatoumata, je n'en sais
et
rien.
Indépendamment de cette suspicion qui est une attaque personnelle.
Il ne faut pas avoir des islamistes partout. Et ça dit quelque chose du moment de tension qu'il y a dans la société.
Parce que le Printemps Républicain, c'est évidemment ceux qui se sont attaqués à Rokhaya Diallo quand elle devait siéger au Conseil numérique. Donc toute la boucle est parfaitement bouclée.
C'est le simple fait que moi, Karim Rissouli, j'accueille sur mon plateau Rokhaya Diallo, crée déjà pour eux une sorte de faute morale et politique. J'essaie de faire mon métier de la façon la plus honnête possible. Là, je trouve que c'est une attaque un peu basse.
Justement, vous avez dit, vous avez couvert deux campagnes électorales, deux campagnes présidentielles. Vous êtes un ancien journaliste d'Europe 1. Vous avez été très exposé à la télévision puisque vous avez fait partie du Grand Journal, qui est quand même vraiment, pour le coup, un promontoire. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que pour vous, c'est nouveau, ce type d'attaque?
Oui, quelque chose a changé. Quand j'étais au Grand Journal, il y avait déjà Twitter, effectivement, mais je pense que ça prenait moins de place qu'aujourd'hui. Puis j'étais pas présentateur de l'émission, donc on s'attaquait pas à moi comme ça. Dès qu'on parle de laïcité, dès qu'on parle des insoumis, dès qu'on parle du Front National, évidemment,
on sent une armée numérique
qui pratique la menace et l'intimidation quelque part. Quand Françoise Laborde met en copie Yannick Letranchant, il y a une sorte de délation. C'est-à-dire que au cas où tu n'es pas écouté Yannick Letranchant, voilà ce que fait ton journaliste. Bon, voilà, c'est un des dérapages de l'époque, malheureusement.
Vous recevez qui dimanche?
Je reçois François-Xavier Bellamy, qui est l'un des nouveaux penseurs de la droite, qui a 32 ans, qui est un normalien, maire adjoint à Versailles, et qui conseille Laurent Wauquiez. Donc on va lui parler de l'état de la droite française.
Eh ben, c'est très bien, c'est beaucoup occupé de la gauche à la droite maintenant. Merci beaucoup Karim Rissouli, c'est Politique, 18h35, donc le dimanche sur France 5. La réponse à notre jeu, c'était extrêmement difficile. C'était Igor Barrère. Oui, c'est lui le pionnier des émissions médicales.
Igor Barrère
à l'ORTF, celui à qui Marina Carrère-Dancos et Michel Seymès doivent tout.
Et j'espère que votre auditeur va gagner cette fois-ci.
Sam.
Sam.
Aujourd'hui, je tire mon chapeau à Violaine Ballet, réalisatrice de l'Instant M, à Redouane Tella et Anne-Cécile Perrin, mon équipe de choc, à nos techniciens qui se sont succédés toute la semaine, juste après les infos, grand bien vous fasse, à Lire EBI, avec ses questions toujours choc, peut-on désirer sans dominer? Attention, 01 45 24 7000.